J'ai une très bonne question pour vous. Avons-nous besoin d'intermédiaires autres que Jésus-Christ pour avoir accès à Dieu le Père? La parole de Dieu va nous donner une réponse étonnante pour plusieurs, aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone sans frais au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, aujourd'hui, on va apprendre des choses merveilleuses concernant notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ. J'ai bien hâte d'entendre avec vous les réponses que l'Épître de Paul aux Colossiens va nous donner aux questions que voici. Avons-nous besoin d'intermédiaires autres que Jésus-Christ pour avoir accès à Dieu le Père? Sur quoi la foi réelle repose-t-elle? Sur quoi est-elle fondée? Qu'est-ce qui se produit quand on affirme être chrétien et qu'on n'a aucun amour pour les frères et sœurs dans la foi? Est-ce que l'Évangile porte des fruits partout où il est prêché? Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Qu'est-ce que ça prend pour qu'on puisse manifester l'amour réel? Qu'est-ce que l'apôtre Paul a demandé à Dieu pour les Colossiens? Quels sont les sujets de louange auxquels on est encouragé dans l'Épître aux Colossiens? Eh bien, demeurez avec nous. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner ce qu'elle dit en réponse à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Seigneur, on désire entrer dans ta présence, te dire combien tu es merveilleux, et on te demande de disposer nos cœurs afin que ta parole puisse vraiment faire effet, un effet éternel qui va nous aider à mieux te servir le temps qu'on est sur cette terre. Enseigne-nous, Seigneur, on a besoin de toi. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons introduit l'Épître aux Colossiens. Nous avons dit que son thème principal est la personne de Jésus-Christ, qui est la tête de son corps, la tête de l'Église. Cette épître réfute les doctrines du gnosticisme, qui faisait de Jésus-Christ un demi-dieu entre le Dieu suprême et l'univers physique. Cette épître enseigne que nous pouvons approcher Dieu directement et que nous avons tout en Christ Jésus qui possède la sagesse et la perfection. Nous avons aussi expliqué pourquoi nous insistons tellement sur une relation personnelle et intime avec Dieu. Celui-ci veut des personnes qui l'aiment et il ne se contente pas de personnes qui ont entendu parler de lui. Nous vous avons aussi demandé si vous étiez dans la volonté de Dieu. Nous reprenons notre étude au verset 3 du premier chapitre de l'Épître. Chers amis, débutons notre lecture, Colossiens chapitre 1 verset 3. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Quiconque est en Christ Jésus a un accès direct au Père céleste. Nous pouvons nous adresser directement à notre Dieu trinitaire. Nous n'avons pas besoin de puissance intermédiaire entre nous et lui. Nous n'avons pas besoin d'une créature inférieure comme médiateur. Quiconque est en Christ Jésus a un accès direct au Père céleste. C'est un des privilèges d'être sauvé par la foi en Jésus-Christ. Nous ne cessons de prier pour vous. Si nous entreprenions de faire la liste de toutes les personnes pour qui a prié Paul, nous n'aurions pas terminé de sitôt. Paul n'a pas cessé de prier pour les croyants de Colosse. Poursuivons notre lecture. Colossiens 1, versets 4 et 5. « Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ » et de votre amour pour tous les saints. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Ici, Paul présente les trois grâces que reçoit le croyant. Premièrement, la foi, fondée sur des événements passés ou historiques. Deuxièmement, l'amour, aimer les saints est une action présente. Troisièmement, l'espérance que l'on verra se réaliser dans l'avenir. La foi repose sur des faits historiques et elle est fondée sur le passé. L'apôtre Paul va dire de bonnes choses au sujet de ses croyants. Ils avaient la foi en Dieu. La foi repose sur des faits historiques et elle est fondée sur le passé. Elle est fondée sur ce que le croyant a entendu autrefois, sur ce que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, lui a précédemment fait connaître. Ceci réfère au message de l'Évangile, aux grandes vérités rattachées à l'Évangile de la grâce de Dieu. Dieu nous conduit à la croix et nous demande de le croire et lui faire confiance. Vous n'avez pas vraiment entendu l'Évangile tant que vous n'avez pas entendu quelque chose à croire. L'Évangile n'est pas une tâche ou une mission à accomplir. L'Évangile nous raconte ce que Jésus-Christ a fait pour nous il y a 2000 ans. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Citation de Romains chapitre 10, verset 17. La foi n'est pas un plongeon dans l'inconnu. Notre foi est fondée sur des faits historiques. De votre amour pour tous les saints. La foi est fondée sur des événements passés, mais c'est présentement que nous aimons les saints. Le monde désire voir de l'amour entre les chrétiens. Il est insensé et ridicule de prétendre, croire et défendre les doctrines fondamentales de la Bible tout en faisant de la médisance au sujet de nos frères dans la foi et en soulignant toujours leurs défauts. Il y a trop de saints merveilleux et super spirituels qui regardent leurs frères de haut parce qu'ils jugent qu'ils ne sont pas à la hauteur et qu'ils ne sont pas séparés du monde comme ils le sont. Cette attitude n'attire pas le monde au Seigneur Jésus. Le monde désire voir de l'amour entre les chrétiens, affirmer être chrétien et ne démontrer aucun amour pour les frères est de la pure hypocrisie. Si nous sommes en désaccord avec un frère, il faut faire preuve de patience à son égard. Nous devons l'aimer et prier pour lui. N'oublions jamais que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce et qu'aucun d'entre nous n'atteindra la perfection sur la terre. Un homme est venu me voir et il a critiqué le travail d'un autre prédicateur évangéliste. Comme lui, je n'approuvais pas entièrement les façons de travailler de ce prédicateur. Cependant, l'Esprit de Dieu utilisait cet homme avec puissance. J'ai donc demandé au frère qu'il critiquait s'il priait pour cet évangéliste. Il a répondu négativement. « Je pense que tu devrais prier pour lui, lui dis-je. Tu n'es peut-être pas entièrement d'accord avec lui, mais l'Esprit de Dieu bénit son ministère. » Les croyants de Colosse avaient des qualités. Ils avaient une foi saine en Dieu. Ils aimaient les frères et ils connaissaient les fondements doctrinaux du christianisme. De plus, l'apôtre Paul ajoute qu'il avait une espérance pour l'avenir. Le texte précise et nous dit « à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux ». Dans la première épître aux Corinthiens, Paul mentionne ces trois grâces, mais avec une approche différente. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. L'apôtre Paul mentionne l'espérance en deuxième et l'amour en dernier. Pourquoi? Parce que l'amour est la seule grâce qui va exister éternellement. L'amour est une grâce que nous exerçons présentement, mais elle est la seule qui nous suivra dans l'éternité. Il est très important que nous manifestions notre amour présentement sur la terre. Qu'en pensez-vous? Cette espérance qui vous est réservée dans les cieux est une espérance bénie. Nous devons avoir hâte au retour de Jésus-Christ et l'idée de son retour doit nous réjouir. Les faits sur lesquels fonder notre foi. Que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. L'Évangile est un message simple que Dieu vous demande de croire. Il nous demande de croire en nous fondant sur des faits. Jésus-Christ est né d'une vierge. Il a fait des miracles. Il est Dieu fait chair. Il est mort sur la croix. Il a été enseveli. Il est ressuscité et il est monté au ciel. Du ciel, il a envoyé son esprit le jour de la Pentecôte afin de former l'Église. Jésus-Christ est assis à la droite du Père céleste, ce qui indique que son œuvre rédemptrice est achevée et acceptée par Dieu. Il nous invite à entrer dans le repos qu'il offre à ceux qui viennent à lui. Présentement, il intercède pour nous. Je crois qu'il exerce aussi d'autres ministères. Finalement, il reviendra sur la terre un jour. Tous ces faits font partie du message de l'Évangile glorieux que nous prêchons. C'est cela le contenu de l'Évangile. Revenons à notre texte, poursuivons notre lecture, Colossiens chapitre 1, verset 6. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Paul dit que l'Évangile a pénétré Colosse, tout comme le monde entier. Certains érudits pensent que l'expression « dans le monde entier » est une hyperbole, c'est-à-dire une expression exagérée pour produire une impression forte. Beaucoup éprouvent de la difficulté avec le sens littéral de cette expression, doutant que l'Évangile ait déjà atteint le monde entier au moment où l'apôtre Paul s'est retrouvé emprisonné à Rome. Cependant, cette expression n'est pas une hyperbole. Pendant de nombreuses années, Paul a prêché l'Évangile à Éphèse, et les routes romaines se rendaient dans cette ville. Les routes romaines traversaient l'Asie mineure. Des gens de tout l'Empire romain y circulaient, et en passant à Éphèse et en Asie mineure, ils entendaient l'Évangile. Certains se convertissaient. Par exemple, une église a été fondée à Rome bien avant que l'apôtre Paul s'y rende enchaîné. Cependant, c'est Paul qui avait conduit au Seigneur de nombreux chrétiens habitant maintenant cette ville. L'Évangile a dû atteindre tous les confins de l'Empire romain parce que les apôtres et les chrétiens travaillaient avec zèle en Asie mineure. L'expression « dans le monde entier » réfère simplement l'Empire romain à l'époque de l'apôtre Paul. Le monde romain devait être considéré comme étant le monde entier. L'Évangile porte des fruits partout où il est prêché. Il porte des fruits. L'Évangile porte des fruits partout, partout, partout où il est prêché. Paul l'affirme et il ne se trompe pas. Nous en sommes témoins encore aujourd'hui. Là où l'Évangile est fidèlement prêché, le Seigneur bénit avec des conversions. J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous traduisons et adaptons le matériel, a déclaré ceci. « Je dois admettre que ma foi était faible lorsque j'ai débuté le ministère de la radio. J'étais déterminé à prêcher la parole de Dieu, mais honnêtement, je m'attendais à un échec. La plus grosse surprise de ma vie a été de voir Dieu bénir sa parole. Quelle surprise! Je pensais que Dieu me laissait tomber, mais ça n'a pas été le cas. Dieu a promis de bénir sa parole et nous pouvons compter sur sa fidélité. » Il porte des fruits et il s'accroît comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Nous sommes étonnés par le nombre de personnes qui téléchargent les émissions à travers la Bible de notre site Internet. Nous recevons des appels de personnes qui désirent ardemment avoir l'assurance de leur salut. Le Seigneur a ouvert les portes afin que son Évangile soit proclamé dans toute la province de Québec. Par Internet, les émissions sont disponibles à toute la francophonie. Les Européens et les Africains téléchargent nos émissions. Dieu bénit sa parole. Savez-vous que la Bible est la parole de Dieu? Non seulement est-ce que je crois que la Bible est la parole de Dieu, mais je le sais. Quelqu'un peut me dire « Monsieur Joly, je ne crois pas que la Bible soit la parole de Dieu. » Je lui réponds, « Ah non? » « Non, enchaîne-t-il, ne vas-tu pas essayer de me persuader qu'elle l'est? » « Non, » je réponds alors, « je sais que la Bible est la parole de Dieu. » « Je ne fais pas que le croire, je le sais. » Cette personne se compare à quelqu'un qui viendrait me dire, « Monsieur Joly, avec des arguments philosophiques et psychologiques, je peux démontrer que vous n'aimez pas votre épouse. » Peut-être que cette personne pourrait argumenter mieux que moi, me présenter toutes sortes de raisonnements qui semblent logiques pour démontrer que je n'aime pas mon épouse. En fin de compte, je lui dirai, « Mon ami, je ne sais pas ce qui est de tous ces arguments, mais je veux que vous sachiez une chose, j'aime mon épouse. » C'est quelque chose que je sais. Je sais que j'aime mon épouse. Je n'ai pas besoin de toutes sortes d'arguments et de raisonnements savants, sophistiqués, philosophiques et ésotériques pour le démontrer. Nous savons tout simplement certaines choses. Ne laissons jamais ce que nous ne connaissons pas mettre en doute ce que nous savons. Nous devons comprendre cela. Paul dit que l'Évangile produit des fruits. Nous avons cette merveilleuse assurance que c'est vrai. Poursuivons la lecture de Colossiens 1, verset 7. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Épaphras était un ancien ou un pasteur de l'Église de Colosse. L'apôtre Paul dit qu'il est un fidèle ministre de Christ. Notez que Paul parle en bien des autres serviteurs de Dieu. Paul avait toujours un bon mot à dire au sujet de ceux qui prêchaient la parole de Dieu. Cependant, s'il rencontrait une pomme pourrie, il n'hésitait pas à la réprimander comme le faisait le Seigneur Jésus. Jésus était miséricordieux envers les pécheurs. La femme surprise en flagrant délit d'adultère aurait dû être lapidée. Cependant, Jésus a refusé de la condamner et lui a parlé avec douceur. Jean chapitre 8, les versets 1 à 11. Lorsque Nicodème est venu voir Jésus de nuit, il a essayé de le flatter. « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » L'Évangile selon Jean chapitre 3, verset 2. Autrement dit, nous, les pharisiens, nous savons et nous avons un bon jugement. Le Seigneur Jésus l'a fait descendre de son piédestal avec douceur et grâce. Nicodème, comme tous les pharisiens, posait en homme spirituel, mais il n'était qu'un homme ordinaire qui pratiquait des rituels religieux. Jésus l'a conduit au point où il a demandé, « Comment cela peut-il se faire ?» Le Seigneur Jésus lui a parlé de la crucifixion. Il a aimablement accepté de parler à un tel homme. Colossiens chapitre 1, verset 8. Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. L'amour est le fruit de l'Esprit. Cette épître ne met pas l'accent sur le Saint-Esprit, mais l'apôtre Paul désire que les Colossiens comprennent que, sans l'Esprit, ils n'auraient pas pu manifester aucun amour. Paul a dit aux Galates que l'amour est le fruit de l'Esprit. Cependant, dans cette épître, il ne s'attarde pas sur cet aspect de la vérité. Il s'attarde plutôt sur la personne de Jésus-Christ. Alors qu'il fait cela, l'Esprit prend les choses de Christ et nous les révèle. C'est une des tâches importantes du Saint-Esprit. Dans la prochaine section, nous voyons la prière de l'apôtre Paul pour les Colossiens. C'est une des plus belles prières des Écritures. Cette prière mentionne tous les points essentiels. Il est donc important d'examiner son contenu. Priez-vous pour des choses que Dieu vous a déjà accordées? Aujourd'hui, nous entendons les gens prier pour des choses alors que Paul affirme clairement que nous les avons reçues. Par exemple, nous entendons des prières à cet effet. Père, nous te demandons de nous pardonner nos péchés, de nous purifier par le sang de Jésus. Reçois-nous dans ton royaume. Donne-nous ton Esprit Saint et sauve-nous à cause des mérites de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette prière? Eh bien, Dieu nous a déjà accordé toutes ses requêtes. À notre conversion, Dieu nous a pardonné tous nos péchés. Nous sommes purifiés par le sang de Jésus-Christ. Il nous a déjà transférés dans le royaume de son Fils. Nous avons été scellés du Saint-Esprit à notre conversion. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, précise Romains chapitre 8, verset 9. La minute que nous avons cru l'Évangile, nous avons été sauvés éternellement. Il serait donc préférable de louer le Seigneur pour toutes ces choses qu'il nous a déjà accordées plutôt que de lui demander de nous les donner. Plutôt que de dire « nous te demandons », disons merci de nous avoir donné. Examinons maintenant cette prière merveilleuse. Premièrement, Paul va présenter quelques requêtes. Colossiens 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Le contenu de la prière de Paul pour les Colossiens. Premièrement, Paul a prié afin que les Colossiens soient remplis de sagesse. Le mot grec, épignosis, signifie une connaissance exacte et précise des choses divines. Les gnostiques de Colosse prétendaient avoir une connaissance supérieure aux autres. Paul a prié afin que les Colossiens possèdent une vraie connaissance précise et correcte. Notez que Paul restreint cette connaissance à une connaissance de la volonté de Dieu. Cette connaissance doit être possédée en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Ensuite, Paul a demandé que les Colossiens soient entièrement agréables au Seigneur. Cela implique que les Colossiens ne devaient pas se soumettre aux hommes ni chercher à leur plaire. De plus, Paul a demandé que les Colossiens portent des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Le chrétien est une branche qui porte du fruit. Le Seigneur Jésus est le cep ou la vigne, et nous devrions porter du fruit. Croissant par la connaissance de Dieu. Un chrétien ne peut pas demeurer stagnant. Il doit grandir au moyen de la parole de Dieu. Paul demande donc que les Colossiens croissent dans la connaissance de Dieu. Verset 11. Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Voici une cinquième requête. La force et la puissance proviennent de Dieu. Le Saint-Esprit les produit. Les chrétiens doivent être fortifiés par sa puissance afin d'être persévérants et patients. Cette attitude doit se manifester avec de la joie. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Sujet de louange. Paul énumère maintenant les choses pour lesquelles nous devrions être reconnaissants vers le Seigneur, car nous les possédons déjà. Paul remercie Dieu parce qu'il nous a donné un héritage avec les saints dans la lumière. Nous devrions nous accaparer de cette vérité. Nous devrions croire Dieu et ses promesses. Verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Paul est reconnaissant parce que nous avons été libérés du royaume de Satan. Nous étions morts dans nos péchés et nous marchions selon le train de ce monde. Nous sommes maintenant citoyens du royaume de son Fils bien-aimé. Nous ne pouvons pas établir le royaume de Dieu. Nous pouvons en devenir citoyens en ouvrant notre cœur à Jésus-Christ et en l'acceptant comme sauveur personnel. C'est ce qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Un dernier verset pour aujourd'hui, Colossiens 1, verset 14. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Non seulement sommes-nous transférés dans son royaume, mais nos péchés sont pardonnés. Ce privilège est indissociable du sang de Christ versé à la croix. Dieu ne nous pardonne pas arbitrairement ni strictement pour des raisons sentimentales. Nous avons été rachetés au prix du sang de Jésus versé à la croix. Le mot « rédemption » signifie « achat au marché des esclaves ». Jésus nous a rachetés. Paul a remercié Dieu pour ces cinq raisons merveilleuses. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Colossiens, chapitre 1, les versets 15 à 18. Bonne lecture.
Merci, Régent. Tu as dit aujourd'hui que là où l'Évangile est prêché fidèlement, le Seigneur bénit avec des conversions. Et c'est tellement vrai. Mes amis, le Seigneur m'accorde la joie de vivre cette déclaration à pleine capacité en faisant partie de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir. Régent nous a mentionné que J. Vernon McGee s'attendait à un échec quand il a commencé à prêcher l'Évangile à la radio. Et quelle a été sa surprise quand il a vu Dieu bénir sa parole. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir organise et participe à des camps d'espoir, à des concerts gospel, à des déjeuners de l'espoir, à Radio Espoir, à Télé Espoir. Et dans chacun de ces événements, le Seigneur nous étonne par sa toute-puissance et son amour pour tous ceux envers qui il nous envoie. Avant chacun de ces événements, on prie ensemble et des chrétiens de plusieurs églises se réunissent pour prier avec nous. Personnellement, ce que je désire que les chrétiens demandent à Dieu pour moi, c'est ce que Paul a demandé dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 6, versets 19 et 20. Alors, à tous les croyants qui nous écoutent en ce moment, voilà une bonne suggestion quand vous priez pour l'équipe d'Aujourd'hui d'Espoir. Voici ce que Paul dit. « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Bien sûr, l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir n'est pas dans les chaînes comme Paul qui était en prison, mais on a besoin de la même grâce que Paul pour annoncer l'Évangile hardiment et librement. Et quand on demande ça à Dieu, on a confiance qu'il est déjà à l'œuvre, comme il l'est présentement au moment où je vous parle. Paul nous dit quelque chose de bien encourageant dans le 3e chapitre de son épître aux Éphésiens, au verset 20 et 21 à ce sujet. Il dit « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Mon ami, toi qui nous écoutes présentement, toi qui n'as pas encore reçu la grâce merveilleuse de Dieu, c'est-à-dire le cadeau de la vie éternelle, ce cadeau que personne ne mérite, puisqu'on est tous des pécheurs, comme la Bible nous le dit. Aujourd'hui même, en ce moment, tu pourrais recevoir le pardon de tous tes péchés et l'assurance que le jour où tu mourras, tu iras dans la présence de Dieu pour l'éternité. Tu n'as qu'à placer ta confiance en Jésus seul. Pas dans les bonnes œuvres que tu as accomplies dans ta vie, pas dans tes souffrances, pas dans toutes sortes d'intermédiaires, mais en Jésus seul. Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu fait homme. Il a pris un corps d'humiliation comme le nôtre. Il a payé en entier la dette que nous avions envers Dieu pour nos péchés. Alors maintenant, repens-toi. Change de direction à l'égard du péché et demande à Jésus de te sauver. Demande-lui de te donner la vie éternelle. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix. C'est pour toi qu'il a donné sa vie. C'est par amour. Il n'y a personne qui peut t'aimer au point où Dieu t'aime.
Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance.
Une minute, Régent. Est-ce que c'est compliqué, ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très, très intellectuel.
Hein? Rien de plus facile, Caro.
Oui.
Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison,
oui,
de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions.
Est-ce qu'il y a beaucoup de
par cœur? En rapport avec le texte qu'ils auront lu. Du par cœur. Quasiment pas de par cœur.
Oui, c'est intéressant.
C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi.
Pour mieux connaître Dieu.
Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant.
Ah, ça, j'en suis certaine, Régent.
Et il a des choses très importantes à partager avec nous.
J'ai le goût de m'inscrire.
Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance à partir de chez vous. Pour toute correspondance.
Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
En composant le 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.